Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Hadjadj
et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, 26e épisode de notre seconde saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale, avec Descartes et la question « Le bon sens est-il la chose du monde la mieux partagée ?» Descartes, c'est le discours de la méthode. Ce sont quatre préceptes simples, le premier étant de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment pour être telle, c'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention, et ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. C'est aussi l'affirmation que les mathématiques fournissent le modèle de toute démonstration et certitude. Mais on oublie que cette primauté de la méthode suppose une mise au second plan des maîtres et des génies et une affirmation qu'on pourrait appeler démocratique de la dignité intellectuelle de tout homme. Nous allons donc aujourd'hui réfléchir sur cette première parole du discours de la méthode, à savoir que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, pour mieux comprendre la portée de la révolution cartésienne.
Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. En quoi il n'est pas vraisemblable que tous se trompent, mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes. Et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies et ne considérons pas les mêmes choses. Car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices, aussi bien que des plus grandes vertus. Et ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage s'ils suivent toujours le droit chemin que ne font ceux qui courent et qui loignent. Pour moi, je n'ai jamais présumé que mon esprit fût en rien plus parfait que ceux du commun. Même, j'ai souvent souhaité d'avoir la pensée aussi prompte ou l'imagination aussi nette et distincte ou la mémoire aussi ample ou aussi présente que quelques autres. Et je ne sache point de qualité que celles-ci qui servent à la perfection de l'esprit. Car pour la raison ou le sens, d'autant qu'elle est la seule chose qui nous rend hommes et nous distingue des bêtes, je veux croire qu'elle est tout entière en un chacun, et suivre en ceci l'opinion commune des philosophes qui disent qu'il n'y a du plus et du moins qu'entre les accidents et non point entre les formes ou natures des individus d'une même espèce.
Fabrice Hadjadj, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Quel est le contexte de ce texte ?
Bien, nous sommes au tout début du discours de la méthode. Alors, souvent, ce discours de la méthode, on a tendance à le faire commencer plus loin, c'est-à-dire la deuxième partie qui contiennent les règles, soit justement à l'expérience du je pense donc je suis. Bon, alors qu'il y a cette première affirmation et qui est une affirmation pour le moins étonnante. Parce qu'elle nous présente, d'abord parce que Descartes s'y présente lui-même, peu après avoir dit « le bon sens est la chose du monde la mieux partagée », à savoir qu'il n'a jamais présumé de son esprit et qu'il n'a jamais pensé qu'il était génial, qu'il était plus parfait qu'un homme du commun. On avait parlé dans l'épisode précédent de sa santé fragile. On a là quelqu'un qui est un peu... Enfin, on retrouve quelque chose qu'on retrouvera chez Simone Veil, par exemple, lorsqu'elle... Donc Simone, sœur d'André Veil, Veil qui était un grand mathématicien, elle trouvait son frère génial. Et Simone Veil, donc la philosophe, bien sur juive, hein, et non pas le ministre garde des Sceaux, eh bien, Simone Veil disait qu'elle n'était pas géniale, que c'était son frère le génie, mais qu'elle pouvait suppléer à ce défaut par l'attention. Voilà, toute une pensée sur l'attention. Et ici, c'est pas l'attention, mais c'est la méthode. Ouais. Nous sommes tous égaux dans le fait d'avoir une raison. Il n'y a pas de gens plus intelligents que d'autres. Il n'y a pas de gens plus raisonnables que d'autres. Ça, c'est une affirmation pour le moins étonnante. Alors, c'est vrai qu'il fait référence aux autres philosophes. Il dit, c'est commun aux philosophes que, oui, c'est la raison qui distingue les hommes. Mais les philosophes auront tendance à dire que, même si la faculté rationnelle est commune à tous les hommes, l'acte, la manière de l'exercer est inégalement répandue. Et donc, ce n'est pas tout à fait vrai que de dire les anciens pensaient que tous les hommes étaient également raisonnables. Peut-être chez Platon, c'est vrai qu'il y a cette histoire du Ménon, où le jeune esclave arrive à faire une déduction, mais chez Aristote, c'est beaucoup plus difficile à croire, parce qu'Aristote soutient le fait que certains sont faits pour commander, d'autres pour servir. Il pense qu'il y a un esclavage qui pourrait être naturel, donc qui n'est pas un esclavage, qui n'est pas une oppression, qui est pour le bien de chacun des deux parties, bon, parce que l'autre n'est pas capable de se diriger lui-même. Donc ça signifie que même s'il est doté de raison, la raison en acte est moindre chez lui que chez un autre. Or, Descartes dit non, il suffirait que chacun applique la bonne méthode, et moi-même qui ne suis pas meilleur que n'importe qui d'autre, bien voilà, j'ai essayé de trouver une méthode pour orienter ma raison mieux que les autres.
Et donc voilà un peu la suite du précepte sur lequel on avait terminé l'émission la semaine dernière. Il nous donne ici une méthode pour conduire notre intelligence, donc pour conduire d'une certaine manière notre vie. C'est ça l'objet du discours de la méthode.
Oui, c'est un chemin de vie intellectuel. Et d'ailleurs, méthodos vient justement du mot chemin et méta, hein, c'est-à-dire celui qui a fait le chemin et qui après nous rapporte. Alors il dit bien après par la suite. En tout cas, cette méthode m'a servi, je ne dis pas que c'est la méthode universelle. C'est très intéressant, hein. Il y a toujours, chez Descartes, en même temps que la recherche d'une certitude qui se voudrait la plus universelle, toujours une affirmation de quelqu'un qui prend la parole. C'est moi qui parle, c'est moi qui dis cela. Vous voyez, on ne trouverait pas ça dans un traité d'Aristote. Quant à Platon, il parle toujours par l'intermédiaire de personnages dans ces dialogues. Là, c'est vraiment cette manière de parler à la première personne qui est moderne. Et quand on pense, par exemple, aux encycliques des papes, il y a cette chose très étonnante que c'est à partir de Jean-Paul II qu'un pape commence à dire « je » dans les encycliques. Avant, c'était « nous ». Eh bien, Descartes, lui, écrit la philosophie comme cela, avec ce « je ». Qui n'est pas un jeu de l'anecdote, qui n'est pas un jeu autobiographique, mais qui montre que chacun a à faire ce chemin que lui a commencé à faire, et il nous livre donc après coup une méthode, voilà, pour apprendre à penser.
Mais c'est assez étonnant, la fin de cet extrait que nous venons de lire semble montrer que Descartes se place dans une forme de continuité avec l'histoire de la philosophie, puisqu'il montre bien que ce qu'il avance semble être en effet en conformité avec ce que les philosophes précédents ont dit. Et pourtant, on sait bien que juste après, dans la suite toujours de cette première partie, il va un peu critiquer l'histoire de la philosophie en disant que c'est un édifice chancelant, avec comme une maison qu'on aurait rénovée au fur et à mesure sans jamais vraiment bien en reposer les fondations, et donc que c'est un édifice bancal qui ne va pas forcément vraiment très droit. Et donc, il faudrait en fait tout détruire pour tout reconstruire. Et donc, c'est étonnant qu'à la fois, il donne cette méthode pour tout reconstruire, et en même temps, il se place encore dans la continuité de cet édifice.
Oui, il y a une logique de destruction chez Descartes, hein, mais, qui est explicitement nommée, on le verra dans le prochain épisode, hein, où il parle vraiment de détruire tout ce qu'il a reçu. Et ça, c'est très impressionnant. Geste analogue qu'on verra chez Heidegger quand il parlera de destruction ou chez Derrida de déconstruction. C'est vraiment un geste qui sera repris, et quand même ces auteurs diront aller contre Descartes, en fait ils sont complètement dans la lignée cartésienne. Mais d'une certaine façon, c'est très intéressant. Il y a un double mouvement. Il y a un mouvement par rapport à la philosophie comme telle et par rapport à ce qui relève des sciences. un geste effectivement éminemment critique, où il propose un nouveau départ. De telle sorte que, dans cet ordre-là, nous ne sommes pas, comme dirait Pascal, des nains sur les épaules de géants. Non, ces géants titubent. Et d'ailleurs, on voit bien ici que le problème n'est pas d'être un génie, une grande âme ou une petite âme. Parce que qu'est-ce qu'il nous a dit dans ce texte ? Une grande âme, c'est celle qui est capable de grandes choses, donc aussi bien de grands biens que de grands maux. Hein, elle est grande, même dans ses vices, hein, voilà, ou dans ses vertus. Donc il n'y a pas du tout, la grandeur n'est pas une garantie. Le génie n'est pas une garantie ni de vérité, ni de vertu.
Il peut y avoir un mauvais génie.
Il peut y avoir même un mauvais génie, voilà. Donc ça, c'est ce qui est la première affirmation, hein, une affirmation centrale de ce texte. Donc par rapport à cela, effectivement, il éprouve le besoin d'un nouveau départ qu'il va engager en son nom propre. Donc nous ne sommes pas des nains sur des épaules des géants, nous sommes tous égaux dans la raison, et il faut que chacun ait la responsabilité de suivre un chemin de pensée. Donc ça c'est vraiment l'idée qu'il y a une liberté de pensée, mais aussi une exigence de pensée, et que personne ne peut le faire à notre place, si l'on veut entrer dans la certitude et dans la vérité. Ça, c'est une affirmation vraiment très étonnante. Et c'est comme s'il reprenait quelque chose qui est fondamental dans la révélation, c'est que la relation au Christ, c'est la relation de quelqu'un à quelqu'un. C'est une relation personnelle. Il n'y va pas dans la révélation d'une sorte de vérité dans laquelle je ne serais pas engagé et dans laquelle il n'y aurait pas une rencontre de personne à personne. C'est toujours moi, comme dirait John Henry Newman, myself and my creator. Donc moi et mon créateur, moi et mon sauveur, moi et mon... Et on voit donc cette dimension-là, à mon avis, dans ce texte. Donc ça, c'est dans l'ordre, en tout cas la critique se joue dans l'ordre de la science, mais dans l'ordre de la foi, Descartes est un fidèle, un homme pieux, un homme dévot, un homme... et à aucun moment, il pense qu'on puisse remettre en cause les dogmes de l'Église, par exemple. Donc ça, c'est un... Et justement, donc, parmi ces dogmes de l'Église, il y a l'affirmation que le Christ est venu pour tout homme, même le plus petit, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, ou même ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Et c'est ça qui est derrière. Et ça, c'est ce qu'on oublie. Là, il y a un événement qui est rationnel, qui est une affirmation de la rationalité, mais cette affirmation de la rationalité, curieusement, est fondée sur cette foi qu'il y a une dignité de chaque homme et que chaque homme, dès lors, possède la raison et est capable de l'exercer, est capable d'être responsable et est capable, donc, en suivant la bonne méthode, de comprendre les choses par lui-même.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec notre question aujourd'hui. Le bon sens est-il la chose du monde la mieux partagée? Et cette affirmation, Fabrice Hadjadj, ouvre le discours de la méthode et d'une certaine manière, elle va le clore aussi puisqu'à la fin de la sixième partie, Descartes va expliquer pourquoi il a écrit ce texte, cette préface, et pourquoi il l'a écrite en français, notamment pour que pour que le plus grand nombre y ait accès, et donc que ce soit écrit dans la même langue aussi simple que même les livres de cuisine, donc que la ménagère puisse même y avoir accès. Et donc, il y a non seulement la reconnaissance de la dignité de tous les esprits, on pourrait dire de tous les hommes, mais même de tous les hommes et de toutes les femmes, ce qui, même à ce moment-là, est déjà quand même assez, assez révolutionnaire. Mais...
Et d'ailleurs, il faut revenir sur ce point qu'il est appelé... par la reine de Suède, qu'il a cette correspondance avec Christine, avec Élisabeth, et qu'il y a des femmes qu'il va instruire, et qu'il y a des femmes qui voudront l'écouter. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très particulier et qui est typiquement moderne, parce que si on dit la raison est la chose du monde la mieux partagée, c'est-à-dire le bon sens ici, ou la raison, c'est dire également partagé chez les hommes et les femmes. Donc les hommes n'ont pas plus de titres ou de droits à être philosophes que les femmes. Ça aussi, hein, c'est une révolution cartésienne.
Mais est-ce que ce n'est pas étonnant par rapport au projet cartésien lui-même d'accorder une place si grande simplement à la connaissance et à la bonne direction de sa raison, puisque le projet cartésien est quand même finalisé par une utilité, par une action sur le monde. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment une nécessité à connaître est-ce que ce n'est pas étonnant par rapport justement à la dernière partie du discours de la méthode où on voit vraiment cette importance de l'extériorisation de la pensée dans le faire.
Alors ça, on aura l'occasion d'en parler. Connaître pour agir, connaître pour maîtriser les forces de la nature et rendre le monde meilleur. Bon, ça, c'est aussi un autre aspect de la pensée cartésienne. Mais justement, pourquoi avoir ce projet-là plutôt que de consentir à un ordre du monde comme cela donné qui fait qu'il y aurait des riches et des pauvres, qui fait qu'il y aurait des gens en bonne santé, des gens en mauvaise santé. Pourquoi vouloir transformer cette situation ? Ben, précisément parce qu'il y a cette dignité de chaque homme. Ça a été la grande affirmation de justement du père Labertenière quand il distingue la philosophie de la nature de Descartes, la philosophie de la nature d'Aristote, où il dit qu'Aristote a une physique d'esthète et Descartes une physique d'ingénieur. Bon, c'est une première remarque, d'accord. Donc l'un contemple, l'autre veut transformer. Mais il dit surtout que l'homme, pour Aristote, fait partie de la nature. Donc il est pris dans un ensemble qui est le cosmos. Et dès lors, bien sûr, il va respecter la nature parce qu'il y est inséré, peut-être, mais il y a des sortes de hiérarchisation. Il peut y avoir des êtres mieux doués que d'autres, et il va y avoir certains qui commandent à d'autres, etc. Alors qu'il dit Descartes, non, le cogito, je pense, je suis, ça relève d'un autre ordre, que tout le monde, tout le cosmos extérieur, qui est étendu, qui est mécanique, il n'y a pas la pensée et dans le monde, mais elle n'est pas du monde. Dès lors, dès qu'il y a un homme qui pense, il y a quelque chose qui est plus grand que le monde, qui à aucun moment ne peut être instrumentalisé, ne peut devenir un rouage dans ce monde, ne peut être asservi. C'est pour ça que Labertenière dira, vous voyez, ok, Aristote, penseur de la nature, premièrement, mais donc l'homme est intégré dans la nature, il y a des hiérarchies peut-être dans la nature, et il y a des hommes qui sont peut-être naturellement pas dans l'espèce, ils appartiennent tous à l'espèce humaine, mais mieux doués que d'autres qui commanderont aux autres, donc l'esclavage est possible, avec Descartes. Voilà, l'homme n'est pas une partie de la nature. Donc il n'y a pas, c'est quand même très important, de totalitarisme possible. C'est ça ce qu'on oublie, parce qu'on va reprocher à Descartes finalement d'être le père du totalitarisme, parce qu'il a cette vision technoscientifique, de pratique, voilà, et on pourrait dès lors organiser le monde pour qu'il devienne meilleur, le systématiser, et c'est un penseur du système. Oui, mais l'homme en tant qu'il est une chose pensante, et non pas une chose étendue, donc pour tout ce qui relève de sa personne, et ce qui n'est pas seulement son corps, eh bien, il y a quelque chose qui est irréductible à toute mainmise d'un mécanisme, d'un système, etc. Et ça, il faut se souvenir de cette affirmation de la dignité humaine.
Fabrice Adjadj, en prenant ce nouveau point de départ du bon sens et de la possibilité de conduire toutes les intelligences à la connaissance et à la sagesse, Descartes va aussi opérer un changement radical de l'orientation de toute la philosophie. Et est-ce que, à partir de cette époque, en fait, il, d'une certaine manière, il détruit la possibilité de faire de la philosophie comme avant ? Est-ce que, vu ce point de départ qu'il prend, est-ce que ce n'était pas...
Oui, alors, on peut maintenant passer peut-être à quelque chose d'un peu plus critique, parce que moi, je veux absolument montrer la grandeur de Descartes, et c'est pas pour rien que les religieux même de son époque ont vu sa valeur, et des religieux qui, à l'époque, n'ignoraient pas Augustin ni Thomas d'Aquin. Bon. Mais donc, c'est vrai que cette affirmation-là, que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, va être à l'origine de l'idée progressiste d'une libération de l'humanité par l'éducation, notamment. Et quand on voit l'école, mais je ne dirais pas seulement l'école républicaine, bon, disons, parce que c'est quelque chose qui émerge donc au XVIIe siècle, il ne faut pas l'oublier, mais l'école parlait d'égalité des chances, c'est à partir de cette idée cartésienne. Si tout le monde peut aller à l'école et tout le monde, et il peut sortir, il peut y avoir cette mobilité sociale qui fait que le fils d'un paysan ou le fils d'un esclave ou même un ancien esclave affranchi peut finalement accéder aux plus hauts emplois à partir du moment où il étudie et qu'on lui donne les bonnes méthodes, vous voyez, bon, et après, bon, bah, s'il rate, c'est sa faute, quoi, enfin, en gros, mais c'est pas en lui-même, vous voyez, qu'il y aurait une défaillance, un défaut, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment cartésien. Maintenant, c'est vrai que cela introduit cette idée qu'on doit penser par soi-même. Et dans les circulaires pour la philosophie, pendant très longtemps, il y avait cette idée qu'il s'agissait d'ouvrir à l'esprit critique. Donc voilà, ce qu'on a reçu, il faut l'examiner, et puis penser par soi-même, voilà, moi-même, les idées qui me sont claires et distinctes, etc. Donc c'est sûr qu'il y a un effacement de la position du maître, et on pourrait croire qu'il y a un effacement de l'argument d'autorité, et que tout doit être ressaisi par soi-même, au lieu d'avoir des connaissances qui nous viennent par la confiance, par la foi, par la dimension sociale de notre être. Voilà, je sais que c'est vrai parce qu'un tel qui est mon maître l'a dit, je fais confiance en sa raison, je n'ai pas à m'approprier moi-même par ma raison directement ce qu'il a dit, la crédibilité suffit. Or, on voit bien que dans l'ordre de la foi, ben forcément ça marche comme ça, et il n'y a pas à voir pour croire, en fait, on croit. Et en croyant quelqu'un qui a été témoin oculaire, eh bien, on sait ce qu'il a vu et on a la certitude que ça existe parce que lui, il a vu, mais moi, je ne vois pas. Donc, il est vrai que cette dimension-là, qui est fondamentale dans l'ordre de la connaissance historique, puisqu'on ne voit pas les choses directement, dans l'ordre, bien sûr, de tout ce qui relève d'une connaissance à travers des témoins, et donc, forcément, la résurrection du Christ, enfin voilà, qui passe par une longue chaîne de témoins, eh bien cela va être mis en retrait de l'éducation, de la formation. Et il va y avoir cette sorte de primauté de ce qu'on arrive à saisir par soi-même, donc selon le modèle, on pourrait dire, des mathématiques. Mais ça n'est que la moitié de la pensée de Descartes, ou plutôt ça n'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on voit que derrière, il y a tout un cadre, et on a vu l'importance des rêves chez Descartes, la piété mariale de Descartes, le fait que c'était vraiment quelqu'un qui essayait de vivre chrétiennement, le fait que c'est quelqu'un qui était engagé aussi, puisque ça a été un soldat, et qu'il médite dans son poêle, et qu'il, voilà, avec les méditations métaphysiques, alors qu'il revient des guerres d'Allemagne, qu'il va y retourner. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est engagé dans son temps. Et donc qui est dans un monde qui est aussi celui de la confiance, qui est aussi celui de la relation sociale avec les autres. Et surtout, dans tout l'ordre, on pourrait dire, de la morale, ce qu'il appelle la morale par provision, mais qui ne sera jamais surmontée, c'est-à-dire comme s'il n'y avait pas de possibilité de morale purement rationaliste, voilà. Vous avez dit qu'il y avait une visée peut-être utilitaire, après, mais certainement pas utilitariste. Il y a même quelqu'un qui n'est pas utilitariste, c'est Descartes. Donc, Il y a cette morale qui est une morale par héritage, par tradition, par fidélité aux coutumes de son pays et par écoute de la loi de Dieu. Donc là, on est dans un acte qui est celui de la confiance. Et de l'autre côté, donc dans tout l'ordre religieux, bien Descartes, ne remet pas du tout en cause. Là. Et donc, vous voyez, c'est ça. D'un coup, ce qu'il dit à propos de la philosophie ou de la science va être pris souvent par certains épigones comme étant le tout de la vie humaine, le tout de la connaissance humaine. Mais non, il y a d'autres ordres, il y a un autre ordre, et notamment l'ordre de la vie sociale, l'ordre de la vie spirituelle ou religieuse, où là, il s'agit vraiment de se mettre à l'écoute et de se faire fidèle, et donc d'être dans des actes de foi et non pas de chercher toujours à voir par soi-même, mais à accepter ce que d'autres ont vu et qu'ils nous transmettent.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec René Descartes, Fabrice Hadjadj, Geldric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis à 18h30, les samedis à 10h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.